enfin, que ça fonctionne pas, je me tire une balle, et si je le fais pas, je me tire une balle. Donc autant essayer. Enfin, il y avait un truc de genre, je veux pas faire, enfin, je veux faire ce qui me plaît.
Bienvenue dans ce 7e épisode de Scope. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Desjardins qui réalise des courts-métrages et des fictions. Il a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Rouge Vert Bleu, que vous connaissez sûrement, et qui propose des tutos pour apprendre la vidéo. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour. Mais il a aussi une chaîne YouTube de courts-métrages qu'il a créé avec son collectif Les Parasites, qui a plus de 400 000 abonnés. Dans cet épisode, on va principalement parler de comment faire le switch de la vidéo de commande à la fiction. Et on va aussi parler de l'Atelier 7, sa nouvelle école de cinéma démocratique. Je vous invite aussi à vous inscrire à du contenu bonus via le lien qu'il y a dans la description.
Bah, c'était la première fois que tu passais devant la caméra en fait en faisant ta chaîne YouTube.
Publiquement, ouais.
Ouais, c'est pas facile.
Publiquement, ouais. Il y avait peut-être eu déjà des making-of de par les 48 heures qu'on avait pu faire avec les Parasites ou des choses comme ça. Mais là, j'avais un problème de légitimité à me dire, mais en quoi moi, je suis capable de donner des conseils à d'autres gens, tu vois. Et je me suis rassuré en me disant que l'idée, c'était pas de donner des conseils à tout le monde, mais j'avais vraiment peur des retombées du milieu pro, en mode, mais quittez-toi pour nous donner des conseils, tu vois. Et ce qui m'a rassuré, c'est de me dire que non, je le fais pas pour leur donner des conseils à eux, je leur fais pour donner des conseils à moi d'il y a 10 ans quand j'ai voulu... Enfin, je me suis automotivé en me disant, ok, à quoi ça sert d'apprendre des tas de choses si c'est pas pour les transmettre, puisque je peux crever du jour au lendemain, et du coup, j'aurais emmagasiné ça dans mon cerveau, et ça sert à rien. Vraiment, ça, c'était un gros déclencheur. Et de me dire, mais en plus, ça te fait plaisir d'en parler. Enfin, ça te fait plaisir de transmettre ce que tu sais, les trouvailles que t'as trouvées, etc. Et puis, il y a une espèce de vengeance aussi. Enfin, vengeance, c'est à la fois de faire ce que j'aurais aimé trouver, tu vois. J'essaye de faire les vidéos que j'aimerais trouver. Et du coup... une vengeance par rapport au fait que j'avais pas accès à ça, et aussi une vengeance par rapport à l'école qui a pas donné, l'école de ciné qui a pas donné justement ce genre de connaissances. Et du coup, j'essaie de faire vraiment les vidéos où je donne des conseils que j'ai moi exploré, trouvé autrement que par les voies classiques, quoi. Et du coup, au début, je me suis dit, ok, je vais prendre un pote comédien pour parler face cam. Et de toute façon, j'écrirai tout, et j'ai écrit tout, et je lui ferai dire ce que j'ai à dire. Et je pensais à Greg, bref, on a fait un truc, vous êtes super, je sais pas si t'as suivi ce truc-là, mais un pote Greg, Grégory Snow, qui a fait ça, vous êtes super, qui a incarné ce truc. Et après avoir eu cette expérience, je me suis dit, mais non, mais je peux pas, enfin, c'est trop long à avoir ce processus de dire ce que je veux faire dire à l'autre, ou même qu'il apprenne son texte ou quoi, pour le retransmettre face caméra. Et avec une passion comme j'aimerais, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je le fais tout seul, mais je vais mettre un masque. Et au début, je me dis, bah, je monte pas ma gueule, je mets juste des illustrations, des trucs comme ça. Puis après, je me suis dit, mais putain, ça veut dire encore plus de boulot, parce que s'il faut tout illustrer, c'est chiant. Donc du coup, je me suis dit, je vais mettre un masque. Et un jour, je me suis foutu une claque en me disant, bon, allez, vas-y, aujourd'hui, tu tournes face cam, tu le fais, enfin, et en plus, enfin, de par quand tu essaies d'examiner un peu qu'est-ce qui fait la force des vidéos du web, etc., tu te dis, bah, en fait, c'est aussi la proximité avec les gens. Enfin, c'est ça qui cassait un peu par rapport à la télé, où la télé, c'est très impersonnel dans le sens où tu sais pas qui est derrière. Enfin, je veux dire, tu vois les gens à l'écran, mais tu sais pas qui fabrique. Et sur Internet, tu sais qui fabrique et tu t'identifies à cette personne en disant, ça pourrait être moi. Mmh. Et du coup, je trouvais ça... Enfin, je me dis, ok, il faut aussi aller là-dedans en mode être... Enfin, incarner en fait sa chaîne et du coup être là, et limite l'avoir appelé Rouge Vert Bleu, c'était une erreur. J'aurais dû appeler Guillaume ma chaîne, tu vois. Bon, bref.
Mais rien ne t'empêche de le faire après. Donc...
Ouais, mais pff, ça m'amuse que ça soit Rouge Vert Bleu, j'aime bien. Mais j'ai commencé, tu vois, à dire mon prénom beaucoup plus tard. À la fin de mes vidéos, maintenant je dis salut, c'était Guillaume, ciao. Enfin, tu vois, que. Okay. Bref.
Mais c'est marrant que tu dis ça, parce que moi j'ai essayé plusieurs fois de faire des vidéos sur YouTube. À chaque fois, justement, j'ai ce problème de j'ai pas envie de me montrer, genre je me cache un peu, tu vois.
Tu t'es mis hors champ par exemple?
Bah, au début, non, j'en ai fait quelques-unes quand même au face cam.
Ah, d'accord. Okay.
Mais je me suis trouvé ridicule et je trouvais que c'était terrible. Du coup, là, j'ai refait une vidéo par exemple sur du matériel, et je me suis dit, cette fois-ci, c'est bon, c'est mort, j'aime pas être devant la caméra, je fais que des b-rolls, des illustrations.
Et t'étais tout seul quand t'as fait ça, ou il y avait des gens qui t'aidaient, qui te filmaient?
Non, bah alors j'étais tout seul, on va dire, tout seul. Dans l'idée, j'étais tout seul, sauf pour les plans d'illustration, mais du coup, ça compte pas. Ouais. Et du coup, là, j'ai fait une vidéo avec que des plans d'illustration où je me parle juste en voix off. Et donc, en même temps, je me suis dit, c'est cool. Et en même temps, je me suis dit, bon, bah, ça m'a quand même pris 2 journées de tournage pour faire les plans d'illustration. Donc, c'est du taf, et comme tu viens de le dire. Donc, c'est marrant. Ouais. Ça, et du coup, j'arrive bien à me projeter, à me dire, t'es déjà passé par là. Et toi, ta conclusion, c'est de te dire, au final, personne ne peut être plus moi que moi. Donc, autant le faire moi-même. Et parfois, je reviens à ce raisonnement et de me dire, ce serait tellement plus simple de parler dans la caméra et de dire ce que j'ai envie de dire, plutôt que de devoir inventer une histoire, tourner des plans d'illustration, ouais, écrire une voix off et tout. Voilà.
En fait, moi j'ai aussi choisi ça parce que je me suis dit que de toute façon, si je faisais autrement, je le ferais pas. Et à un moment où tu te dis, si tu veux que ça existe, ce que t'as en tête, bah, fais-le même si c'est pas à la hauteur de ce que t'imagines le truc le plus parfait. Et fais-le. Enfin, en fait, c'est ce truc-là que j'ai réussi à accepter en moi, c'est de me dire que je préfère que quelque chose existe, même imparfait, que ça n'existe pas, en fait, tu vois. Et du coup, je savais que Rouge Vert Bleu, ça allait être pas ma priorité. Ça allait être juste un truc secondaire qui m'amuse à faire. Et du coup, si ça commence à me saouler, à me mettre trop de travail, j'allais pas le faire. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, filme-toi, dis ce que t'as à dire, et puis voilà. Et si tu trouves le temps de faire des illustres, je sais que mes vidéos pourraient être 10 fois mieux, en fait. Mais, voilà.
C'est quoi ton activité principale, du coup?
Bah, moi, je veux faire des fictions. Enfin, je veux écrire et réaliser des fictions.
Donc, et le matin, tu te lèves, tu fais des fictions, c'est ça ton activité numéro 1?
Bon, en ce moment, ouais.
C'est vrai?
Ouais.
C'est beau.
Bah, j'ai réussi, en tout cas, à faire le switch, ouais.
Et le switch entre quoi et quoi?
Bah, entre la vidéo de commande pour entreprise, ouais, à faire des fictions, écrire et être validé et du coup avoir du financement pour tourner ces fictions. Ouais. En gros, moi j'ai monté ma boîte. Enfin, avant j'étais auto-entrepreneur, ensuite j'ai monté ma boîte.
T'as monté ta boîte? C'est quoi l'intérêt?
Bah, c'était de me dire auto-entrepreneur. Enfin, j'avais envie d'investir. J'avais pas de matos quand j'étais auto-entrepreneur, donc je louais des appareils à mes potes. Et c'était chiant, et puis je me suis dit, vas-y, j'ai envie de passer un gap, j'en ai marre de filmer avec des appareils photo, je vais m'acheter une vraie caméra, etc. Et c'était un peu le début des premières caméras grand capteur, hein, parce que c'est les appareils photo qui ont amené, tu veux savoir, ouais, qui ont amené les grands capteurs aux caméras. Et du coup, je me suis dit, bah, quitte à acheter du matos, autant monter une boîte, en plus je serais plus crédible auprès de mes clients, parce que je suis plus juste auto-entrepreneur, mais j'ai une entreprise, du coup je peux aussi rémunérer des potes, enfin je peux rémunérer des gens qui m'aident, quoi, faire des trucs avec une grosse équipe, etc. Enfin, j'ai direct investi dans du matériel, et du coup que j'avais ce matériel, je me suis dit, putain, mais enfin, je me suis acheté donc une Sony FS700 à l'époque, elle venait de sortir, et je me suis dit, mais vas-y, profites-en, c'est trop con d'avoir du matériel à ce point de qualité, de pas en profiter pour faire des fictions, et du coup, et j'avais vachement de mal à allier les vidéos de commande pour entreprise et mes projets perso. À chaque fois que je bosse pour mes trucs perso, enfin, ou que j'envisageais l'idée de bosser pour des trucs perso, je me culpabilisais moi-même en disant « Mais non, il faudrait que tu retrouves des clients, il faudrait que tu bosses pour tes clients, machin. » Donc, j'y arrivais pas. Et du coup, la solution, c'était de faire des 48 heures où en un week-end, tu fais ton truc, puis c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, ça te prend pas du temps sur la semaine, etc. Même si, en vrai, quand tu bosses à ton compte, il y a pas vraiment de week-end ou de semaine, mais bon. Ça me prenait que 2 jours, quoi. Donc, c'était cool, en vrai. Quand tu commences à en faire un et que t'as un résultat, enfin, c'est tellement une école de ouf de faire un 48 heures parce que t'écris, et bah, 48 heures plus tard, max, t'as le résultat. Et du coup, tu peux vraiment comprendre ce qui fait que ça a marché ou pas, ce que t'as écrit, t'as direct au résultat, donc tu fais « Ok, ce que j'ai écrit là, ça marche pas, tu referas pas l'erreur » ou t'as appris un truc qui fonctionnait trop bien et du coup t'as envie de le refaire. Enfin bref, c'est une super école.
Et toi, dans les 48 heures, parce que dans un 48 heures, j'imagine, j'en ai pas fait, hein, mais j'imagine que tu te répartis vite les rôles et que souvent il y a des rôles qui doivent revenir pour certaines personnes. Toi, t'avais quel rôle?
Les premiers 48 heures, tous, je réalisais, je montais, je cadrais.
T'écrivais, tu jouais?
Et j'écrivais.
T'étais tout seul?
Non, je jouais pas. Non, mais en gros, ça se résume à... Par exemple, le premier 48 heures, on était... Il y avait Jérém, avec qui j'ai co-réalisé. Il y avait Samuel Durana, qui était comédien, Arnaud Barré, qui était comédien, et Réa Simon, un pote qui n'avait rien à voir avec le milieu du cinéma. On était 5. Et du coup, ouais, c'est moi qui ai monté. On a co-réalisé avec Jérém, c'est moi qui cadrais. Enfin, voilà. Et après, du coup, ça a été une leçon de se dire, putain, en fait, on peut faire des films avec que dalle en moyens et en équipe. Il suffit d'un ingé son. Donc, les prochains, on avait un ingé son et juste moi en chef-op cadreur. Et puis, voilà. Et après, il y avait Jérém qui avait un peu un rôle d'assistant réal et des fois co-réal. Et puis, de le reste, c'était des comédiens, c'est tout.
Ça en a fait combien des 48 heures, à ton avis?
Faut que je les compte. Tu veux que je prenne le temps de les compter?
Vas-y, vas-y, pourquoi pas. On a le temps.
Parce qu'en vrai, je raconte rarement le premier 48 heures que j'ai fait, qui était un complet échec. Et c'était pas sous le nom des Parasites, c'était les Ninjas. Alors en même temps, tant mieux, parce que sinon la chaîne des Parasites s'appelle les Ninjas. C'est quand même mieux les Parasites. Donc ouais, il y a ce 48 heures-là. Ensuite, de Paris, Lyon, donc 3, ensuite 5, donc 8, parce qu'on a fait 5 une année. Pff, et après, je sais plus, parce qu'on a refait, mais genre on a fait Bruxelles, on a fait... un 48 heures en plein séquence, on a fait le 48 heures... Ah oui, et la même année, on a fait un sixième, donc le 48 heures de Strasbourg, qui ne fait pas partie du 48 HFP du concours international. On a fait celui avec un pote embryo sous le nom d'une autre équipe. Merde, attends, parce que mes doigts, je n'arrive plus à compter sur mes doigts. Ah oui, donc ça fait 7 et 5. Donc ça fait 12.
Ok.
Ok, je crois, hein. Ouais, donc peut-être plus, j'en ai plus peut-être, mais je crois pas.
T'as fait une petite quinzaine de 48 heures, et avec le recul, tu peux me dire un peu ce que ça t'a apporté et...
Bah déjà plein d'expériences, parce qu'on a fait des films en rien de temps, en 48 heures, quoi, c'est ouf. Un vrai... limite, c'est ça qui m'a fait aimer écrire des films, faire des 48 heures.
Ah ouais ?
Ouais, mais parce que t'as une contrainte de temps et tout, t'es obligé de pondre un truc. Et tu commences à réfléchir. Alors, j'avais lu des bouquins sur l'écriture avant, et du coup, je pense que c'est un tout qui m'a fait genre vraiment aimer écrire des films. Parce que pendant toute l'école, et même avant l'école de ciné, etc., ce qui me fascinait, c'était la technique, c'était les belles images, c'était les ambiances, etc. Même si je me rends compte que tout ça, en fait, n'est qu'au service de l'histoire, et même l'ambiance est créée par l'histoire et non pas l'inverse. Enfin, la technique vient souligner l'histoire et c'est ça qui amplifie l'ambiance, mais c'est pas l'inverse. C'est pas la technique qui va créer l'ambiance et l'histoire qui est secondaire, tu vois. Mais bref, j'ai mis du temps à le réaliser.
Mais c'est souvent le cas, on fait souvent cette erreur au début quand on commence. Enfin,
je sais pas, mais en tout cas, ouais, moi, c'était la grosse erreur. Mais au final, je regrette pas parce que d'être passé par la technique m'a fait maîtriser la technique, qui m'a permis ensuite de faire des 48 heures avec zéro moyen dans le sens où j'avais ma caméra. Un ingé son et moi, enfin tu vois, et on pouvait faire un film techniquement avec juste cette équipe. Et c'est trop bien, c'est libérateur de ouf, parce que si tu sais que tu maîtrises la technique, tu peux t'attarder maintenant sur l'artistique, on va dire, sur le scénario, la direction d'acteur, et puis après, on va dire, la réalisation est dans une contrainte aussi compliquée que le 48 heures. Je suis pas encore, je sais pas comment dire, j'ai pas encore passé ce cap d'expérimenter vraiment la réalisation. Je sais pas comment le dire, mais...
Qu'est-ce qui te manque ? Qu'est-ce que tu recherches ?
Du budget, du temps. En vrai, tu te rends compte que quand t'as très peu de temps et très peu de budget, tu peux pas vraiment réaliser tel que t'aimerais ton film. Donc en fait, tu le réalises plus dans les contraintes que t'as, et du coup, bah, les 48 heures, c'est caméra épaule parce qu'il faut aller vite, etc. T'as pas de grosse machinerie, t'as pas le luxe peut-être de te faire un plan séquence Et en vrai, c'est fou, puisqu'on l'a fait, mais...
Je pense que c'est la contrainte que ressentent tous les réalisateurs du monde à tous les niveaux.
Mais oui, mais c'est pour ça aussi de se... Enfin, c'est rassurant aussi de se dire... Enfin, c'est rassurant et non, et quelque part injuste, mais de se dire, en fait, il faut qu'on fasse nos preuves avec zéro moyen, avec des contraintes de ouf, alors que les grands réals, ils font des trucs de ouf, mais c'est normal, puisqu'en fait, ils ont le temps qu'il faut et le budget qu'il faut. Et on se rend pas compte à quel point c'est un luxe qu'ils ont et forcément ils font quelque chose de bien. Enfin forcément non, il faut de l'expérience, du talent, etc. Mais ouais, là, enfin bref.
Ils ont assez de place pour pouvoir s'exprimer pleinement sur des trucs auxquels toi t'es obligé de réagir dans l'urgence et du coup tu peux pas t'exprimer à 100%.
Ouais, t'es obligé de tomber dans des contraintes un peu de réalisation télé en mode bah ok, plan large, champ contre champ et je couvre tout et je gère au montage, tu vois.
Ouais.
Et en vrai t'as envie d'avoir des... Mais quelque part, je pense que cette idée est un peu fausse aussi, c'est notre peur. C'est notre peur de faire vraiment le truc bien qui nous fait faire ces choix-là, enfin qui m'a fait faire ces choix-là, de me dire ok, vas-y, plan large sur contre-champ, et je vais gérer au montage. Et c'est beaucoup plus dur et ça fait beaucoup plus peur de se dire, ok, fais des vrais choix de réal, genre limite, ne cadre que cette personne-là pendant ce dialogue, vas-y, fais-le. Enfin, genre, tu te laisses aucune liberté au montage, mais fais-le. Et bah, ça fait flipper, parce que tu te dis, bah, si ça marche pas, c'est nul. Du coup, t'as pas ce luxe au montage de faire de bidouiller et puis que ça passe quand même.
T'as parlé un peu de rouge vert bleu, mais t'as quand même tout un historique et je te propose que t'essayes de faire l'historique de toi qui découvre la vidéo à toi aujourd'hui. En très peu de temps, genre en 30 secondes. Tu fais, alors, tu vois, tu fais la timeline de Guillaume Desjardins. De Guillaume à 10 ans, qui fait des vidéos avec son frère, à Guillaume maintenant, qui ouvre la Tioli Shop.
Ben voilà, tu viens de résumer.
Ça y est, c'est fait.
J'ai la chance que mes parents ont une caméra de vacances, en gros. Et du coup, bah, peut-être parce que mon grand-père était photographe et que du coup, mon père a eu une caméra. Et du coup, on pouvait faire des films en HI8. Et bref, et du coup, mon grand frère m'a filmé. Et puis après, il a arrêté. Et puis du coup, j'ai pris la caméra. Et puis, j'ai commencé à faire des petits films, etc. Et ça m'amusait vachement. Okay. À me rendre compte qu'en fait, c'était tellement une passion forte que... qu'en fait, ça pouvait être un métier. Révélation de ouf, genre, c'est quoi?
Ça, c'était à quel âge?
Bon, c'était au collège, genre, okay. ça peut être un métier. Du coup, ma mère me dit, si tu veux, il y a un lycée option audiovisuel. Ah bah, carrément, donc j'y vais. Et puis, bon, au final, je suis déçu de l'option. Je me retrouve avec beaucoup de gens qui sont juste, qui aiment bien le cinéma, mais qui veulent pas faire des films, qui sont, enfin, qui ont jamais essayé de toucher à une caméra, etc. Donc, moi, je suis pas cinéphile à la base, je viens de la fascination de... justement de créer des images, créer une autre réalité à travers... j'ai arrêté, j'ai l'impression de perdre mon temps en fait avec l'option du visuel. Et après j'ai été faire une école de cinéma en 3 ans. Et après, bah ouais, j'ai commencé à essayer de bosser. Enfin, t'es tellement... Ils te font tellement rêver dans l'école de cinéma à faire du cinéma qu'en fait ils t'apprennent que ça sans te dire qu'en fait il y a 10 000 possibilités de vivre de ta passion.
Et c'est justement ce que j'essaye de montrer dans ce podcast, tu vois, c'est exactement ça.
Ouais, mais c'est normal en fait, c'est une entreprise, une école de ciné privée. Et du coup, il faut attirer les clients, et du coup, pour attirer les clients, on les fait rêver, et du coup, on leur fait rêver de cinéma, et du coup, on te dit, viens apprendre à faire des grands films de cinéma. Et du coup, tu y vas en disant, ah ouais, moi aussi, je vais apprendre à faire des grands films. Et puis, bah en fait, c'est pas si direct que ça, forcément. Et il faut que t'apprennes, et c'est pas en 3 ans, on devient médecin avec 9 ans d'études, j'en sais rien, et là on te fait croire qu'en 3 ans, tu vas devenir un grand réal, c'est faux. C'est possible, il y en a qui arrivent, hein, c'est pas... Mais en fait, il y a tellement de choses à apprendre, à expérimenter, etc., et qu'il y a pas... Et que comme c'est artistique, et qu'en France, on est très... Enfin, j'ai l'impression, en Europe, peut-être, on est très... l'inspiration, le talent, etc., nous vient du ciel, nous vient de Dieu, enfin, tu vois, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui est inné. Et bah du coup les formations sont un peu bah comment tu vas être formé à quelque chose qui est inné, oui. Tu vois, un côté absurde, tu vois, et du coup bah les profs sont pas forcément incroyables, c'est des anciens élèves qui eux-mêmes sont frustrés de pas avoir réussi dans le milieu, ou moi je me suis même retrouvé en face de profs qui avaient, on sentait clairement qu'ils avaient peur de te transmettre ce qu'ils savent parce qu'ils avaient peur de transmettre de former ses propres concurrents. Au final, les meilleurs profs c'était les profs les plus âgés, qui étaient en mode fin de carrière et qui avaient tout, envie de tout transmettre. Et ensuite, ouais, sortie de l'école, j'ai commencé à faire des vidéos de commande parce qu'en fait, on t'apprend tellement à faire des films avec une grosse équipe que t'as l'impression que tu peux plus en faire puisque les gens sont plus disponibles, puisqu'ils sont plus à l'école, ils ont plus de temps libre, il faut qu'ils essaient de bosser aussi. Et c'est là où les 48 heures a été utile. Donc j'ai commencé à faire des vidéos d'entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, ensuite j'ai monté ma boîte, ensuite j'ai fait les 48 heures. Et voilà, au final, ça a commencé à prendre sur Internet. J'ai eu la chance de bosser avec Ludovic et Raphaël Descraques de par un contact que j'avais de l'écart, mais je sais, ah si, parce que j'avais fait mon stage qui n'était pas un stage. J'ai rencontré Jérémy Strom, qui était pourtant un ancien étudiant de l'écart, une année au-dessus de moi. Il savait que j'avais une FS700, qui pouvait faire des gros ralentis, qui était un peu la première caméra qui pouvait le faire, et qui m'a dit, Guillaume, tu serais chaud pour nous prêter ta cam pour faire des ralentis? Je fais, ouais, pas de souci. Et il m'a dit, ah, en fait, tu serais chaud pour cadrer? Bah ouais, carrément. Et du coup, on s'est retrouvé à cadrer à deux caméras, parce qu'en fait, c'était le court-métrage Blabla de Ludovic, où ces deux frères qui disent la même chose tout le temps en même temps. Et du coup, pour un problème de synchro et de montage, il valait mieux filmer ce dialogue en champ contre champ direct, enfin deux cams. Et voilà, et puis en fait, ça, quelque part, ça a fait une espèce de validation en moi, parce qu'après, Raph a fait un court-métrage qui, où il revoulait la même équipe, parce qu'on avait été hyper rapide par le fait qu'on filmait à deux cams. Et puis après, Jeremy Strom n'a pas été dispo pour une des réals de Ludovic, dont Ludovic m'a demandé. Donc en fait, de par le fait que j'avais pu prouver par les 48 heures que je savais réaliser, bah, les gens qui avaient besoin de réaliser des fictions pouvaient me faire confiance et m'appeler pour ça. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a permis de faire le switch en me disant « Ok, arrête la vidéo de commande », parce que j'ai commencé à flipper, de me dire « Si à 40 ans, je fais encore ça, je vais me flinguer ». Enfin, vraiment... en fait, je suis en train de me dégoûter même de ma passion. Donc, si tu n'arrives pas à faire le switch maintenant, quand est-ce que tu vas le faire, quoi ? Et j'ai été voir mes parents en me disant « Est-ce que vous me soutenez ?» Parce que je vais faire un switch qui va faire que je vais plus gagner d'argent peut-être pendant un certain temps, j'en sais rien. Mais en vrai, j'étais en moi, j'étais tellement sûr de moi que de toute façon, peu importe ce qu'ils allaient me répondre, j'allais le faire. Mais juste, j'avais besoin de savoir si j'avais leur soutien ou quoi. Okay. Et ils m'ont dit « Oui, on sera là. » Enfin, donc, ça rassure. Et puis du coup, j'ai été à fond. Et du coup, j'ai dit non à tous mes clients. Non, non, non. Enfin, j'étais en mode « Je ne fais plus que des fictions. » Mais c'est hyper dangereux. Et puis, heureusement que j'avais cette chance, du coup, d'être accompagné par mes parents. Enfin, clairement, c'est... Enfin, je me sens privilégié dans le sens où c'est pas donné à tout le monde, en fait, de pouvoir s'autoriser ça. Tu vois, c'est comment tu fais si ta famille peut pas te soutenir. Tu prends ce risque tout seul, et si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis, en vrai, si ça marche pas, c'est pas forcément de ta faute. C'est juste que ça peut prendre du temps, enfin... Bon, bref. Et voilà, et du coup, en voyant qu'en faisant ce que j'avais envie de faire, on allait m'appeler pour faire ce que j'avais envie de faire, et bah du coup, je me suis dit, mais il faut que je fasse encore plus ce que j'ai envie de faire.
À quel moment tu t'es rendu compte de ça?
Qu'on allait t'appeler? En faisant les 48 heures. Parce que j'ai fait les 48 heures, j'ai fait des fictions qui fonctionnaient, et du coup, bah, on m'appelait pour ça. Et du coup, bah, Bagel a commencé à m'appeler pour ça, Golden Moustache, etc. Et puis la chaîne Les Parasites, à la base, c'était même pas une chaîne, à la base, c'était sur... La chaîne YouTube avait le nom de ma boîte de prod. Et après, je l'ai renommé Les Parasites parce que je trouvais que ça n'avait pas trop de sens. Et puis finalement, ça a commencé à prendre en abonnés, etc. Et puis on s'est dit, bah vas-y, on se la joue en mode YouTube. On dit aux gens de s'abonner à la fin des vidéos, on commence à apparaître, etc. Maintenant, on ne fait plus, je trouve ça ridicule ce qu'on a fait. Mais puis on a eu un gros coup de pouce de Doc Seven, très chanceux, et grâce à Rouge Vert Bleu, parce que Doc Seven connaissait Rouge Vert Bleu.
C'est quoi Doc Seven?
C'est une chaîne YouTube, William, qui a une chaîne qui fait un peu des top 7 de plein de choses. Et qui a permis à plein de chaînes de prendre un peu en visibilité, puisqu'au début de ses vidéos, il faisait la promotion d'une chaîne. Enfin, il donnait un peu une carte blanche de 30 secondes, ou je sais plus, moins, je sais plus, à des gens qui avaient moins de temps d'abonnés. Mais il nous a fait prendre 100 000 abonnés d'un coup. C'est ouf.
C'est énorme.
C'est énorme. Et après ça...
Attends, mais sur la chaîne des Parasites?
Ouais.
Vous êtes à combien, là, sur la chaîne des Parasites?
Je sais même pas, plus de 400 000.
Du coup, là, t'es arrivé jusqu'au Parasites. C'est quoi l'étape d'après, enfin, les étapes actuelles et futures?
Bon, déjà, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas vivre de ça. YouTube nous permet pas, avec la monétisation, de financer nos films.
Vous avez pas réussi à vivre de la fiction, c'est ça?
Ouais, sur YouTube.
Sur YouTube.
C'est-à-dire, si tu te limites au seul financement de YouTube, de la publicité, si tu veux faire des courts-métrages, bonne chance, parce qu'en vrai, même Cyprien galère à financer ses courts-métrages, le retour sur investissement, on va dire, est négatif. De ce que je vois de nos stats, c'est 50 centimes les 1000 vues. Donc va financer un film, il va falloir que tu fasses quand même si tu fais 10 millions de vues, t'as 5000 euros. Donc j'espère que Cyprien, il a des taux de publicité qui sont supérieurs à ça, donc il est un peu plus à l'aise, mais en vrai, ça lui suffit pas. Il est obligé de financer ses courts-métrages avec des revenus publicitaires d'autres trucs, ou des placements produits, ou des choses comme ça. Ou l'aide du CNC. Enfin, un court-métrage, ça coûte hyper cher, parce qu'il y a vachement de monde sur... Enfin, tout dépend de comment tu le fais, ton court-métrage. Si t'es tout seul à te filmer, toi, bon, bah, ça va pas coûter cher. C'est là où les chaînes YouTube, où t'es tout seul, bah oui, c'est rentable. Même si t'as pas une grosse audience, mais quand tu commences à avoir une équipe, etc., putain, t'as intérêt à faire des nombres de vues énormes, hein, pour financer ça, et puis à t'autoriser les placements produits, et puis à vendre des produits dérivés, enfin à diversifier tes sources de revenus, sinon voilà.
C'est quoi tes sources de revenus actuellement, si ça te dérange pas?
Eh ben, ça reste la vidéo de commande, la principale source de revenus.
Ça prend combien de pourcentage de ton temps, t'estimes?
Ben, en fait, là, on essaye, nous, de faire des prestations qu'on arrive à facturer bien, pour se libérer un maximum de temps.
Nous, c'est qui? C'est les parasites?
Ouais, les parasites. Beaucoup Jérémy, Bernard, Bastien Huguetto, qui est comédien. Lui, il arrive à vivre du fait d'être comédien, de par Cocovoit, de par des fictions, de longs métrages où il a des rôles, etc. Mais oui, avec Jérémy et aussi avec Arnaud qui nous aide beaucoup. On essaie de se libérer du temps en faisant des prestations auprès de clients. Donc des trucs qui nous passionnent pas forcément, mais on en fait très peu au final. Et là, je suis passé du statut de... Enfin, je suis toujours dans ma boîte, mais maintenant j'ai le statut d'intermittent. Parce qu'au final, le statut d'intermittent est quand même fait pour les personnes comme nous qui bossons pas tout le temps et qui nous donnons une assurance quand même de revenus même si tu bosses pas. Alors bien sûr, il faut faire tes 507 heures pour l'obtenir, donc c'est pas forcément évident, il faut les renouveler sinon tu le perds, mais c'est quand même un confort et un soulagement de se dire ok, enfin c'est pas grave si je passe du temps bénévole pour moi ou pour d'autres projets parce que j'ai quand même une mini source de revenus qui tombe, tu vois. J'ai pas répondu à ta question.
Attends, c'est pas grave. Il y a qui dans la société en fait?
Là-bas, j'étais tout seul. Et là, il y a Jérémy et Bastien qui ont maintenant un part égal parce qu'on est en train de faire une série où on est copro dessus.
C'est une SAS du coup?
C'était une EURL et du coup, c'est une SARL.
Du coup, toutes les personnes qui sont dans les parasites, en fait, tu les as rencontrées via ton école au début et ensuite les gens se sont greffés petit à petit avec les 48 heures, les courts-métrages, les projets divers et variés. Et du coup, maintenant, c'est quoi le projet de l'atelier 7 dont tu parles souvent dans les dernières vidéos?
On a eu la chance, après les 48 heures, d'avoir été repéré par une boîte de prod qui s'appelle Sixteen, qui fait que de la vidéo de commande publicitaire et tout pour entreprise.
J'ai taffé avec eux sur certains projets, justement.
Et qui est assez conséquente comme boîte et qui aimerait partir vers le développement, donc c'est-à-dire vers la fiction, de créer des créations originales, quoi. Et du coup, ils nous ont dit, venez, on vous met à dispo gratuitement nos locaux, notre matériel, ce que vous avez besoin, dans les limites des disponibilités, c'est-à-dire vous ne serez pas prioritaire par rapport à nos clients, ce qui est normal, mais en gros, venez et puis on coproduit en gros vos films de cette façon. Du coup, ça commençait à leur faire un catalogue de films qu'ils ont coproduits pour zéro, puisque nous, on faisait tout bénévolement, et dans l'idée qu'un jour, on va switcher avec eux vers du vrai développement financé, et puis financé par des chaînes ou d'autres.
J'ai fait un lien, en fait, entre les plans de leur studio et les plans que vous avez mis sur la chaîne YouTube. Je trouvais que c'était assez similaire dans l'idée. Est-ce que tu t'es inspiré, du coup, de leur
réalisation? Oui, c'est ça que je voulais dire, en effet. C'est que nous, on a eu cette chance d'avoir été accueillis par une boîte de prod qui avait tous les moyens de production pour faire ce qu'on avait envie de faire. Et c'est aussi là où on a le plus appris. C'est en faisant le 48 heures, mais en expérimentant aussi chez Sixteen. Et on a pu lancer plein de projets parce qu'il y avait le matos à dispo, parce qu'il y avait l'espace à dispo. Et du coup, de se dire, mais en fait, c'est ça la meilleure école. C'est de faire ce que tu as envie de faire, parce que tu as le matos, parce que tu as les potes, tu as les gens passionnés, et tu as les espaces qu'il faut. Et du coup, ce qu'on a retenu aussi de l'école qu'on a fait, c'est pas tant les conseils que nous ont donné les profs, c'est toute la pratique qu'on s'est autorisé à avoir et que l'école nous a permis d'avoir en faisant nos courts-métrages. On a tourné énormément, en fait.
Tu dis souvent dans tes vidéos que le diplôme d'école de ciné a peu de valeur.
Oui,
par contre, ce qui a de la valeur, voilà, c'est
ton expérience, ton portfolio, ce que tu as réalisé. Ouais.
Comment s'est née cette idée, en fait, d'école de...
C'est ça.
C'est qui? C'est toi?
Ouais, Jérém. On discutait, enfin, tu vois, une idée, c'est hyper dur d'en donner la paternité vraiment quand tu as juste une discussion puis tu fais ouais, vas-y, on fait ça. Et au début, on avait lu aussi le livre de Ivan Illich, Une société sans école, et du coup, on s'est dit, mais putain, arrêtons avec les écoles privées et tout, faisons une école libre, associative et tout, école démocratique, quoi. Je sais pas si tu connais le concept des écoles démocratiques, mais on a eu la chance aussi de découvrir ce concept où en fait, les enfants, ça peut paraître perturbant, même moi encore, j'ai du mal à me dire est-ce que vraiment ça marche, mais les enfants sont mis complètement libres, ils font ce qu'ils veulent. Et ça nous paraissait hyper pertinent pour une école de cinéma, donc un truc assez ciblé, où en fait, bah, t'as juste un lieu, comme on avait avec Sixteen, quoi, un lieu, du matos, et puis d'autres passionnés comme toi, et puis tu fais ce que t'as envie de faire, et t'apprends comme ça.
J'ai toujours été convaincu qu'il fallait remettre en cause le système éducatif, et c'est vrai que c'est plus facile quand c'est ciblé, parce que c'est un peu moins stressant que de dire, tiens, ton enfant, tu vas le mettre à un endroit, il va tout apprendre, ouais, en totale liberté. Là, c'est quand même un sujet précis, tu sais que c'est un sujet artistique, ouais, et que t'as besoin un peu de cette liberté aussi pour être créatif, donc ça marche bien, je trouve. Où est-ce que tu trouves le temps entre les projets pour les clients, les courts-métrages, plus monter une école? Enfin, c'est énorme. Comment tu fais pour faire ça?
Bah, on fait que ça. Je sais plus qui m'avait dit ça, mais on est souvent impressionné par le résultat. Mais on est impressionné par le résultat parce qu'on voit pas tout le travail en amont. Ce qui fait le talent, c'est le fait qu'on cache le travail effectué, tu vois. On voit que le résultat. Mais en vrai, si tu voyais le processus de n'importe quel artiste, tu te dirais, ah oui, d'accord, c'est normal qu'il arrive à ça à un moment.
C'est ça qui est beau, et c'est aussi ça qui t'a plu quand tu étais plus jeune et que tu faisais des vidéos avec des caméras de vacances avec ton frère ou quoi. C'est le côté, on crée un truc que les gens on se doute pas que ça puisse exister comme ça, et on crée de toutes pièces et tu racontes une histoire, tu mets en scène des choses, et c'est par là que ça commence, souvent.
Ouais, c'était plus la fascination de l'illusion un peu de recréer ou de capturer une réalité et de faire croire à un truc qui n'existe pas. Je crois que c'était ça à la base qui m'a envoûté, qui m'a passionné, mais c'était pas tant raconter des histoires parce que j'avais pas cette envie à l'époque. Quand t'es jeune, qu'est-ce que tu veux raconter? Enfin si, tu peux raconter ta vie, ton enfance, mais t'as plus envie de raconter des histoires comme tu vois au cinéma ou à la télévision, et du coup... comment tu peux pondre ça?
T'as envie de reproduire un peu plus que peut-être...
Ouais, en fait, t'as envie de copier, de reproduire, mais c'est trop bien aussi, hein, enfin...
C'est comme ça qu'on apprend dans tous les domaines, en fait.
Mais du coup, j'avais pas une envie particulière de raconter des histoires. J'avais envie de faire de la vidéo, faire des films, tu vois.
Est-ce que t'as un conseil ou des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait faire son premier court-métrage?
Bah, qu'il le fasse parce que ça l'amuse, en fait. Déjà, pourquoi il veut le faire? J'ai l'impression que, du coup, ta question est biaisée, parce que s'il en a jamais fait, pourquoi il a envie d'en faire un? Alors, il a peut-être envie de voir un film. Enfin, tu vois, il y a aussi... Enfin, c'est ma réflexion maintenant, c'est... Si t'as besoin de conseils pour faire ton premier film, j'ai envie de dire, ne le fais pas, parce que tu l'aurais déjà fait, sinon, enfin... Je sais pas comment exprimer cette idée, mais...
Non, ça me va très bien, tu vois, parce que moi, j'ai jamais fait de court-métrage. J'ai fait, comme je t'ai dit, des vidéos de cuisine, des clips, et après des vidéos corpo et différents projets annexes. Mais j'ai jamais fait de vrai court-métrage, et du coup, c'est aussi pour ça que je te pose la question, parce que moi, j'ai envie de savoir, parce que c'est un univers qui m'interpelle, parce que je vois des gens autour de moi qui en font. Ouais. J'ai participé à certains, mais j'ai jamais été l'auteur d'un court-métrage.
J'ai une comparaison un peu débile, mais qui me plaît bien. C'est un enfant, avant de faire son premier dessin, il ne demande pas un conseil pour le faire. Ouais. Il le fait, quoi. Mmh. Et ça va être nul, mais c'est pas grave, il s'amuse. Et en gros, c'est ça mon conseil, c'est « mais amuse-toi, fais ton premier film, on s'en fout ». En fait, le problème, c'est qu'on veut direct faire le court-métrage. Et c'est ça qui nous bloque. C'est que du coup, tu me demandes c'est quoi le conseil pour faire un bon court-métrage, quoi. Je peux essayer de te donner des conseils, mais tant que tu l'auras pas fait toi, tu vas pas arriver à les intégrer, ces conseils. J'ai l'impression que c'est même quand t'écris un scénario, tu peux lire plein de livres de scénarios, tant que tu t'es pas confronté toi-même à l'écriture, ça va pas vraiment te parler, ce qu'ils te racontent dans les livres. Et du coup, mais fais-le. Montre-le à personne s'il faut, mais fais-le, amuse-toi, fais de la merde.
Il y a une difficulté à vaincre, peut-être l'idée qu'on se fait de... Entre j'ai envie de faire un film parce que j'adore regarder des films, c'est du coup ça. Tu fais un parallèle, et comme t'arrives jamais au niveau des films,
oui.
T'as
t'es
peur
forcément
de
frustré du résultat. Ouais, si tu veux faire direct un long métrage de cinéma, c'est chaud, quoi. Ouais. Et si t'as fait référence de grands réals et tout, forcément tu vas faire un truc pourri. Enfin, tu vas être frustré, tu vas dire ah là là, ils sont vraiment forts. Bah oui, mais il y a toujours l'idée qu'on se fait de soi-même, de nos capacités, mais sans l'avoir testé vraiment, tu sais, en mode ouais, je sais que je suis capable, genre Matrix. Ouais, je pense que je suis capable de faire Matrix, tu vois. Genre, en fait, t'es où, t'es capable? Essaye. Et en vrai, moi, c'est en faisant, je me suis testé. Après les deux premiers 48 heures qui m'ont bien motivé, il y avait le Nikon Film Festival et j'en ai fait trois d'un coup. On pouvait pas à l'époque en faire plusieurs, donc j'avais mis des pseudos. Et en vrai, je m'étais vraiment testé en mode bah vas-y, tu penses être capable de faire un sketch, bah fais un sketch. Tu penses être capable de faire une scène de combat aussi stylée que Matrix, bah fais une scène de combat à voir. Et en vrai, je me suis rendu compte que putain, bah j'ai vachement appris déjà en faisant, en me disant ok, c'est pas si facile. Et du coup, ouais, enfin voilà, faut faire quoi.
Si moi, au bout de 3 ans de vidéo, j'ai pas fait de court-métrage, c'est que j'en ai pas l'envie, donc c'est rien que je me force, même si je trouve l'exercice sympa.
Non.
Ça viendra quand ça viendra.
Ouais, mais c'est. Enfin, je pense qu'il y a quand même un moment où il faut se foutre un coup de pied au cul.
Ah, tu crois?
Ouais.
Ok. Ah, bah voilà, ça, c'est un bon conseil, je suis chaud, ça me va. Ok, donc.
Et c'est pour ça que le 48 heures a un coup de pied au cul facile. Parce que tu t'inscris, tu payes 80 ou 90 balles, donc du coup, tu le fais. Enfin, ouais, ça te fout le coup de pied au cul, quoi. Donc, c'est pour ça que le faire des 48 heures, pour moi, c'est un des meilleurs conseils à donner. C'est que t'arrives pas à te foutre toi-même le coup de pied, bah fais-le par l'extérieur, genre, ou participe à un autre concours, hein. C'est pas forcément un 48 heures, mais le Nikon Film Festival, ou. Mais ce que j'aime bien avec le 48 heures, c'est que ça met un peu tout le monde à égalité. Parce que t'as le même temps, et t'as les contraintes au même moment. Le Nikon, t'as des différences énormes entre les pros et les amateurs. Parce qu'ils ont le temps, en fait. Ils ont le temps d'écrire, ils ont le temps de mettre des moyens de production dedans, de tourner, etc. Là, le 48 heures, t'as beau avoir toute la meilleure technique du monde, si tu sais pas écrire un scénar, diriger des comédiens, etc. Alors forcément, ils seront avantagés, les gens qui ont l'habitude de faire des films, mais ça égalise un peu les niveaux. Et moi, je me souviens quand on avait fait les 48 heures le premier 48 heures de Paris au nom des Parasites, moi j'étais en mode ouais, on va le faire à l'arrache, c'est cool, on va s'amuser. J'avais envie de retrouver justement ce délire que j'avais quand je faisais des films, que j'étais collégien, lycéen, où il n'y avait aucune prétention à part s'amuser, tu vois, à part passer le mercredi après-midi avec tes copains à faire un film, tu vois, c'est juste ça. Et j'avais perdu ça à cause de l'école de cinéma qui te fixe, enfin à cause de l'école de cinéma, mais même à cause de moi-même, de me dire mais vas-y, maintenant tu fais des films et tout, et du coup tu peux pas faire des films nuls, il faut forcément faire des films bien, du coup tu fais plus rien parce que t'as trop peur de faire un film nul. Et ouais, au moment où on a fait ce 48 heures de Paris, où moi j'étais en mode, bah vas-y, on le fait à l'arrache, on le fait pour s'amuser, c'est le but, et on s'en fout du résultat. Et bah j'avais des potes qui avaient leur boîte de prod, et puis commençaient à me dire, ah, on s'est inscrit aux 48 heures et tout, on a déjà écrit 3 scénars, on a 1000 euros de budget, on a une raid et tout. Moi j'étais en mode, tu sais, un peu impressionnant, un peu jaloux, en mode, ah ouais, cool. Et puis moi j'ai dit, oh non, moi on n'a pas de budget, on n'a rien écrit, on va jouer le jeu, quoi, on va le faire à l'arrache, et on va s'amuser, et voilà. Et au final, on était en finale, on a eu le prix de la meilleure réalisation, et ils n'étaient pas en finale du tout. Enfin, donc tu vois, ça, c'est ça que je trouve agréable, enfin agréable, qui, ça met un peu plus sur un pied d'égalité tout le monde, tu vois, même si t'as des moyens ou pas. Enfin voilà. Donc ouais, c'est vraiment une bonne école, 48 heures.
J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont juste pas le courage de demander à leurs parents, mais qui, en fait, leurs parents, ils seraient largement d'accord, tu vois. C'est une question d'ego aussi. Et toi, il y a des gens qui... Enfin, parce que tout à l'heure, tu mettais un peu en relief, genre, moi, j'ai de la chance, on a les moyens de faire de gérer, ils ont les moyens d'encaisser le truc. Mais en fait, il y a plein de gens autour de nous dont les parents ont les moyens d'encaisser le truc et qui n'ont juste pas le courage de demander ce genre de truc. Donc, tu as eu quand même le courage de le faire.
Ouais, au final, je me suis rendu compte qu'ils ont quand même accepté que j'aille faire des études de cinéma. Enfin, tu vois, donc déjà, je suis chanceux pour ça. Et que du coup, de leur demander derrière, c'était une suite logique aussi pour eux de dire, mais bien sûr, enfin, Guillaume, on veut que tu fasses ce qui te plaît, et si tu penses que c'est ça qu'il te faut, bah fais-le. Du coup, ouais, en vrai, merci mes parents, tu vois. Mais en vrai, j'étais tellement sûr de moi à ce moment-là, que je savais que peu importe ce qu'ils me disaient, j'allais le faire, quitte à me foutre dans la merde. Parce que vraiment, quand je me suis projeté, moi, plus tard, en mode... Ouais, 10-20 ans plus tard, je me dis, mais... Je vais me tirer une balle, quoi. Et c'est aussi, aussi, entre autres, grâce à Ambroise Carminati, qui fait Cocovoate et Bim, qui, lui, avait réussi à faire ce switch avant moi, j'étais là en mode, mais dis-moi, Ambroise, enfin... Comment t'arrives à avoir une telle confiance que ça va fonctionner, ce que tu vas faire? Et il m'a dit, mais en fait, si ça fonctionne pas, je me tire une balle. Donc, que ça fonctionne pas, je me tire une balle, et si je le fais pas, je me tire une balle. Donc, autant essayer. Enfin, il y avait un truc de genre, je veux pas faire, je veux vivre, enfin, je veux faire ce qui me plaît.
Quand tu poursuis une idée comme ça très forte, ouais, y a plus d'options en fait dans ta tête. C'est soit ça, et puis s'il n'y a pas, il n'y a pas, mais en tout cas, c'est ça.
Parce que justement, il n'y a pas d'autre option, ouais, c'est ça. Parce que je ne me vois rien faire d'autre, et que, en plus, encore pire aujourd'hui, où j'ai l'impression que ma seule capacité, c'est là-dedans. Donc, qu'est-ce que je vais faire d'autre s'il n'y a plus ça, quoi.
Par rapport à ton activité donc, pour les commandes, t'as jamais pensé ou essayé de déléguer ça et d'automatiser ça en structure ?
Si, j'y ai pensé avant de faire ce switch. Mais en fait, ça demande. Enfin, déjà, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas de manager une équipe parce que ça allait se résumer à ça. Moi, ce qui me plaisait de faire, les vidéos, et que du coup, de déléguer le boulot, bah, en fait, ça m'amuse pas parce que du coup, je suis juste qu'un intermédiaire entre le client et l'employé, on va dire, et la personne qui m'aide, qui fait le truc.
Tu fais de la gestion de projet, en fait, toute la journée. En gros,
c'est ça. Ouais. Et moi, j'ai pas envie de faire ça. Et du coup, ça a rajouté Ouais, ça a donné un argument en plus pour moi de me dire, fais ce que t'as envie de faire, fais tes fictions, puisque de toute façon... Parce qu'en effet, quand tu montes ta boîte, l'évolution naturelle, ça serait de commencer à déléguer, d'avoir des employés, etc. Et puis de faire gonfler ton entreprise. Et puis du coup, de pouvoir te dégager un plus gros salaire en margeant sur tes employés, etc. Et vraiment, l'idée me plaisait pas du tout, quoi. C'est pas ça que j'ai envie de faire.
Oui, parce que du coup, ouais, effectivement, tu déplaces ton temps, le temps que tu dépenses avant pour créer des vidéos, tu déplaces en gestion de projet.
Ouais.
Et c'est un choix. Donc si toi, ça te plaît de faire plus de gestion de projet, par exemple.
Ouais, c'est ça. Moi, c'était pas ça là-bas. J'ai pas fait des vidéos pour gérer des gens qui font les vidéos à ma place. Voilà.
Ok.
Mais j'aurais pu trouver un mix.
Et en plus, c'est cool parce que ton parcours, t'as à la fois YouTube, à la fois le corpo, à la fois la fiction, c'est polyvalent et ça peut inspirer pas mal de monde, et moi y compris, je pense.
Bah ouais, mais tu vois, c'est drôle, on se met des images et des barrières à l'intérieur de notre tête en mode, si tu fais une école de ciné, bah il faut faire du cinéma, et si tu fais autre chose que ça, bah t'as loupé, t'es nul et tout. Et au final, j'étais loin d'imaginer que faire des lives, des émissions live, ça allait m'amuser, tu vois. Et alors que je trouve ça trop bien. Et aujourd'hui, j'ai appris à faire du live. Et je me suis rendu compte que ma passion pour la technique de quand j'étais petit et tout, je l'ai toujours. Et que du coup, ce qui m'amuse, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Et le live, c'était un défi pour moi puisque je connaissais pas du tout. Et du coup, ça m'a trop amusé de découvrir, de tester, et d'essayer toujours d'aller plus loin. Et c'est ça aussi qui m'a fait peur dans la vidéo d'entreprise, c'est que au bout d'un moment, tu commences à t'installer et à faire toujours la même chose. Mmh. Et du coup, ça me faisait ultra peur parce que je commençais à détester ce que je faisais. Et même à te dire, vas-y, je le fais, mais t'en fais un peu le minimum, tu fais ce que t'as l'habitude de faire. Et ça t'excite plus du tout. En vrai, ce qui est excitant, c'est d'essayer des nouvelles choses, de te challenger, etc. Et c'est pas évident sur des projets de clients, de commandes qui te passionnent pas forcément, le sujet.
Souvent des sujets peu créatifs, quoi.
Ouais. Et puis même si t'es créatif, c'est quoi le but à la fin? Enfin, tu vois, je veux dire, ça t'intéresse pas forcément le but de vendre je sais pas quoi ou de parler à des employés en interne dans une entreprise. Enfin, tu vois,
c'est pas facile de prendre du recul sur sa vie et de se dire, attends, là, je suis en train de faire le même truc depuis un bail, ça m'excite plus et il faut que je change. Et c'est pas facile de s'en rendre compte déjà. Et à quel moment, toi, t'as compris que d'un coup, tu t'es dit, tiens, le corpo, là, c'est bon, je suis en train de m'enliser dedans?
Parce que j'ai vu aucune évolution possible. Je me suis dit, je vois pas comment je vais évoluer. Parce que si je veux évoluer, il faudrait que je commence à prendre des employés. Le peu d'expérience que j'avais eu avec ça me faisait me dire que c'est pas ça que j'ai envie de faire. Donc si évoluer m'amenait vers quelque chose que j'avais pas envie de faire, j'allais stagner là et ça me faisait chier. Et du coup, ouais, à un moment, ultimatum, quoi, qu'est-ce que je fais? Et tu peux rester dans ton quotidien et tout, mais ouais, je sais pas, il faut être prêt à se remettre en question et à faire un virage. Et en vrai, tous les virages que j'ai pu prendre, après, t'es tellement content d'en avoir fait. C'est une aventure un peu. Et pour moi, les films sont là normalement pour nous pousser à l'aventure. Donc, quelque part, ça fait lien, tu vois. Mais du coup, ouais, faut tenter, quoi. Faut prendre des risques. Et c'est vraiment une leçon, d'ailleurs, qu'on s'est donné avec le recul de par rapport à ce qu'on avait pu faire comme choix avec les parasites. c'est de se dire, mais quand ça fait peur, c'est qu'il faut y aller. Et vraiment, à chaque fois qu'on a une idée qui nous est flippée et qu'on l'a fait, eh ben, on était hyper contents derrière, ou ça nous a apporté énormément derrière. Et du coup, c'est drôle de se donner ça comme règle. Parce que du coup, à chaque fois que tu commences à flipper, tu fais, est-ce qu'il faut le faire? Du coup, ça devient un peu, ça te lance des défis de dingue, tu vois.
Et c'est quoi tes prochaines aventures?
Bah là, on est en pleine aventure. On est en train de faire une série qu'on a écrite avec Bastien et Jérémy sur l'effondrement de notre civilisation. Donc, ça sera une diffusion sur Canal Plus Décalé, donc à l'antenne, mais aussi sur MyCanal et sur notre chaîne Nul Parasite. Un peu en retardé sur notre chaîne, enfin, on va diffuser beaucoup plus lentement qu'eux. Voilà.
C'est un beau projet.
Ouais, c'est un très beau projet.
C'est une belle prochaine étape. Ok, d'accord. Bah écoute, je pense que j'ai pas mal d'infos. Le truc, c'est que ça fait 1h22 et si on continue, je vais me rouler la tête sur mon ordi pendant 2 semaines.
Donc, faut conclure.
Faut pas conclure.
Ah.
Faut juste cliquer sur le bouton rouge, je pense.
Tu finis pas avec une phrase ou un truc
pas.
Ah ouais?
Je finis pas mes podcasts.
Je finis sec.
Je finis clac. Bam.
Bam.
Petite fessée avant de partir.
Abonne-toi.
J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si c'est le cas, laissez un avis et un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi vous inscrire à du contenu bonus via le lien dans la description. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.